Devenir par Synapse, pour devenir la meilleure version de soi-même.
Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Devenir. Ici, nous explorons des sujets qui nous passionnent, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Alors mets-toi à l'aise, augmente le volume et sois prêt à avoir l'esprit soufflé.
C'est un plaisir de recevoir aujourd'hui Adrien Chaltiel, qui est le fondateur et CEO de Eldorado, une personne qui a été fortement recommandée avec une trajectoire assez inspirante et qui aide des entrepreneurs de tout genre à accéder à un des grands thèmes qui limite beaucoup de gens intellectuellement ou dans leur mindset, qui est les finances. Adrien, c'est vraiment un grand honneur de t'avoir parmi nous. Merci d'être là.
Bah, écoute, avec plaisir et merci de me recevoir. C'est un plaisir aujourd'hui d'être avec vous.
Est-ce que tu peux commencer par nous donner un peu le background, d'où tu viens, ton histoire, où est-ce que tout a commencé jusqu'à arriver à l'entrepreneuriat?
Bah, écoute, avec grand plaisir, Alex, et encore une fois, merci de me recevoir. Donc, moi, je suis Adrien, je suis père et beau-père de 3 enfants, donc j'ai pas mal de 3 petites filles de monde à la maison. Je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années, je suis avocat de formation, mais... En fait, j'ai pas pratiqué le métier d'avocat pour me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'étais passionné par la création de projets, l'innovation et développer des entreprises. Donc, j'ai commencé dans le secteur des job boards, donc des sites d'emploi spécialisés, la marque employeur, les médias, la communication digitale, un peu plusieurs projets qui m'ont mené à créer plusieurs entreprises qui ont été revendues en 2014 à un groupe de médias un peu vieillissant qui s'appelle Leaders League, qui éditait un magazine qui s'appelait Decider. Et la fusion a fait qu'on a réussi à dynamiser toute cette activité qu'ils avaient. J'y suis resté 3 ans à la direction de ce groupe. Et après, je suis reparti de zéro, vraiment réentreprendre de zéro en 2017 avec l'idée de faciliter la création d'entreprises. Et à force de réflexion, ça a été par le biais du financement qui est le nerf de la guerre. Donc, la genèse d'Eldorado était vraiment avant tout, grâce à mon métier de business angel et d'entrepreneur, d'avoir constaté vraiment la difficulté et les a priori qui peuvent exister dans le cadre de la recherche de financement, ce qui m'a poussé à créer le dernier projet que j'ai en charge aujourd'hui qui s'appelle Eldorado.
Wow. Bravo, une belle histoire. C'était dans le génétique un peu, on a l'impression, et que du coup, c'est une histoire après l'autre, connecting the dots, qui fait que Eldorado soit né aujourd'hui. Et ce que j'ai compris, c'est qu'Eldorado, ça aide vraiment n'importe qui à bien anticiper, à s'entourer, à aligner les intérêts, mais bon, avant tout aussi, il faut trouver des clients, il faut avancer. C'est un peu ça l'idée. Tu peux nous en dire un peu plus de c'est quoi la mission?
Exactement, ce que tu expliques très bien, c'est vraiment dans l'ADN d'Eldorado, l'ADN de base, c'est vraiment l'exhaustivité en termes d'entrepreneurs qu'on aide et l'exhaustivité en termes de financement qu'on met en avant. En fait, il y a un grand paradoxe en France, c'est qu'on est sur une terre d'opportunités incroyables en termes de financement, on est même sur un paradis pour entrepreneurs. Hein. C'est même pas moi qui le dis, c'est Xavier Niel lui-même. Et c'est assez paradoxal car il est quand même compliqué d'actionner les bons financements au bon moment et de tout connaître. Donc nous, dès le départ, on s'est dit ben, on aurait pu créer un cabinet de conseil ou de leveur de fonds, etc. Non, c'est avec mes associés Thibaut et Sylvain, on a tout de suite été guidés par le fait de faire quelque chose de plateformisé, de place de marché pour s'adresser au plus grand nombre. Des tout petits projets aux entrepreneurs très ambitieux, aux futurs licornes ou des gens qui ont une autre mission, hein, des entreprises plus traditionnelles. Quoi qu'il en soit, un hub, nous on appelle ça une chambre de commerce 2.0 même, où les entrepreneurs en se connectant peuvent être accompagnés et aidés dans toute leur stratégie de financement. Et du coup, comme tu le dis, cet ADN a tout de suite été de faire quelque chose qui s'adresse au plus grand nombre, ce qui fait qu'après 5 ans, on a pu aider plus de 1500 entrepreneurs à trouver des financements divers. Financement bancaire, public, levée de fonds, et qu'on a connu plus de 10 000 inscrits dans plusieurs secteurs. Ils ont pu se connecter pour trouver des financements bancaires, publics, des investisseurs, mais aussi des informations, des templates. Et on a tout de suite misé sur ce côté aussi contenu. C'est aussi beaucoup pour ça qu'on est connu. On a même écrit un livre, enfin j'ai écrit un livre sur ce sujet-là, ce qui fait que vraiment on avait cette mission aussi à la fois d'éducation, de sensibilisation sur les financement pour aider les entrepreneurs à développer encore mieux leurs projets et à les financer tout simplement.
1500 entrepreneurs qui ont eu accès à des fonds, ça fait vraiment un impact. Et c'est là la mission, vraiment le volume, la plateforme, le hub. J'adore la métaphore du paradis de Xavier Niel, parce que vraiment, en coaching, c'est la mentalité, les croyances, la certitude qui définit ce qu'on fait. Donc, si on part du principe qu'il y a cette abondance, ça change beaucoup nos actions et ce qu'on fait. Et toi, au niveau perso, alors, comment ça a été au début, donc il y a 15 ans, quand tu as commencé l'entrepreneuriat alors que tu étais avocat? Beaucoup de gens qui nous écoutent, ils sont à ce tout début de dire je renonce à ma profession. Comment ça a été les peurs, les décisions, si tu as des moments précis à partager avec nous du tout début?
Avec plaisir. Alors, c'est une période que j'ai adorée parce qu'en fait, c'était même avant d'être avocat, c'était quand j'étais en études de droit. Donc, à la fac, j'ai pris l'entrepreneuriat. En fait, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et j'ai été pris, notamment par l'associatif. Beaucoup de personnes démarrent l'entrepreneuriat et la gestion de projets collectifs par l'associatif. Au début, je faisais de l'associatif plutôt festif, les fêtes, les soirées, les séminaires, les voyages, etc. Et puis, une fois que j'ai commencé à faire quelque chose de plus sérieux autour de l'édition, notamment des journaux spécialisés dans les universités, ça m'a passionné de faire à la fois du chiffre d'affaires, enfin des revenus, à travers la publicité, à travers des événements, etc. Et aussi la gestion d'équipe. Donc, en fait, c'est les deux sujets qui m'ont vraiment principalement animé. C'était comment on crée de valeur et comment on crée de l'emploi et un travail collectif, comment on s'entoure de personnes et comment on augmente notre curiosité et le plus grand développement possible des projets grâce au collectif. Et donc, j'ai commencé comme ça sur l'associatif. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, l'associatif, c'est top. Tout l'argent qu'on gagnait, on le redépensait dans la croissance, tirer de nombre d'éditions supplémentaires, créer des événements, etc. Et en fait, après, je me suis dit, maintenant, il va falloir que je commence à voir si je peux en vivre. Et j'ai commencé à partir du master de droit à créer une première société commerciale, recruter des premières personnes. Donc là, ça a été un véritable tournant. Le fait de me dire, ça y est, je peux recruter et créer de l'emploi, ça a été vraiment une grande fierté. Et c'est grâce à cette époque-là et puis cet achèvement-là de recruter, cet objectif-là d'avoir des personnes et recruter les personnes, que je me suis dit, ah, c'est fait pour moi, c'est quelque chose qui m'anime, qui me passionne. Et quand on a la passion, le goût du travail il va suivre. Et si on a une bonne idée et des clients potentiels, tout simplement, on va pouvoir créer de l'activité, se payer avec son projet. Et donc, la bascule, elle s'est faite plutôt à ce moment-là en me disant, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. Soit je vais vers la sécurité, mon emploi. Et je sais aussi, d'un autre côté, je regarde aussi mon avocat, je me disais, ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'ai toujours voulu être avocat, mais je savais que je n'allais pas m'exceller ou être autant passionné que mon projet. Donc, j'ai préféré prendre ce qu'il y a dans mon cœur, la passion, plutôt que ce qu'il y a dans ma tête et les 7 études de droit, 7 années d'études de droit assez longues et l'examen du barreau, etc. Et j'ai plutôt suivi, pas le choix de la raison, mais plutôt le choix du cœur. Et j'en suis plutôt content, puisque, encore une fois, avec la passion et un projet cohérent, des bonnes personnes qui travaillent dedans, des bons recrutements, on peut faire vraiment des belles histoires et pourvu que ça dure.
Donc, on est avec Adrien qui nous parle un peu de son début d'histoire où il y a 15 ans, il est devenu entrepreneur et que c'est le monde associatif qui lui a permis de démarrer. C'est du côté festif, à partir pour quelque chose de plus sérieux, embaucher des gens et gérer de l'emploi et à côté suivre son cœur, la passion vraiment, plutôt que suivre la raison qui dirait la sécurité de travailler dans ce métier. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et 15 ans plus tard, aujourd'hui, il y a eu des boîtes vendues, comme il nous a raconté. Il y a vraiment cet impact avec des 1500 entreprises qui ont réussi à avoir accès à des financements en France, plus de 10 000 inscrits et vraiment cette métaphore du paradis financier qu'est la France de Xavier Niel. Et donc, Adrien nous partage un petit peu comment il a démarré et il nous dit que c'est l'associatif et suivre son cœur qui l'a permis d'avancer. Est-ce qu'il y a eu des crises un petit peu, Adrien, qui sont arrivées dans les premières années, que ce soit financière ou autre, où tu as pensé à abandonner peut-être?
Alors, je n'ai jamais véritablement pensé abandonner. C'est comme tout le monde le sait, l'entrepreneuriat, c'est un peu des montagnes russes. C'est vraiment, il y a des jours extraordinaires où on se sent, on est en apesanteur, on a l'impression que tout s'enchaîne bien, les réponses sont positives, les recrutements sont là, l'activité est bonne. Et il y a des jours où c'est une catastrophe, où on se demande pourquoi on a fait ça et quelle folie d'avoir entrepris. Donc en fait, l'un des talents des entrepreneurs, c'est de savoir gérer ça. Et si on ne sait pas le gérer, c'est d'avoir des proches qui peuvent nous aider à le gérer. Les enfants, la famille, une femme, un mari, des parents ou autres, enfin des coachs aussi. Parce que c'est la résilience qui est pour moi la plus grande qualité d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur. Elle se tient au fait de passer des moments un peu plus difficiles et de dire j'abandonne pas et j'ai pas abandonné. D'ailleurs, un des plus grands investisseurs du monde qui s'appelle Ben Horowitz dit une phrase qui dit mais les entrepreneurs talentueux, je leur demande pourquoi ils ont eu du talent, qu'est-ce qui ont fait qu'ils ont eu de la réussite. Et il me dit, je ne m'intéresse pas à ceux qui m'expliquent le chiffre d'affaires, les recrutements, les clients, le time to market, etc. Mais je m'intéresse plutôt à ceux qui me disent, je n'ai pas abandonné, à tous les moments où j'aurais pu abandonner. Et c'est vrai qu'il y en a eu. Mais il ne faut pas essayer de ne pas y penser. Il faut essayer de se dire, tant qu'il y a des clients intéressés, que même si on a des coups durs, des départs, des embrouilles avec des investisseurs, avec des associés, des clients malhonnêtes ou des problèmes de facturation, de trésorerie, il y a toujours une solution. C'est aussi assez connu de dire s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, à chaque problème, trouve sa solution. Après, le métier d'entrepreneur, il faut le savoir, c'est d'aller de problème en problème, de les résoudre. Et ça fait partie du job. Si on n'aime pas ce côté problem solving ou très dédié à son projet, quels que soient les coups qu'on peut prendre, ça va être difficile parce qu'on n'a pas de pare-feu, on n'a pas de gilet pare-balles. Donc, il faut s'armer. Moi, j'ai connu des moments difficiles, oui, plusieurs fois. Des moments de doute, pas trop. J'ai toujours gardé une bonne confiance en moi et en mes idées, en mes équipes, en mes associés ou au projet que j'avais. Mais les coups durs, parfois, sont un peu compliqués. J'ai connu des départs houleux de projets où on n'était plus d'accord avec les associés. Du coup, ce n'était pas des départs agréables. J'ai eu des tensions avec des investisseurs sur certains projets où ils n'étaient pas d'accord avec notre cheminement de réflexion. Ça n'a jamais été grave, ça n'a jamais été des gros problèmes, mais ça mine beaucoup le moral où souvent on a l'impression qu'on travaille dans le vent et que les autres personnes ne peuvent pas percevoir un peu tout l'affect qu'on met aussi dans le projet. Et donc voilà, donc, dernier conseil aussi d'ailleurs que je donnerais, c'est de ne pas mettre tout son affect et toute son énergie dans son projet. C'est de savoir basculer son énergie vers autre chose, en particulier la famille qui doit être la priorité. Mais si on arrive à avoir un bon équilibre avec des activités sportives, intellectuelles, un équilibre familial positif, l'énergie qu'on va mettre aussi vers ces personnes-là, c'est aussi des réussites de vie, c'est aussi ça, faire de l'associatif, travailler pour d'autres projets, diversifier. Il ne faut pas tout mettre, penser soir et matin à son projet, penser 365 jours par an. Il faut savoir vraiment couper et faire autre chose et mettre son énergie sur plusieurs choses dans la vie, ça permet de reposer les pieds sur terre en se disant relativisons, s'il y a ce problème-là, on va le résoudre et même si le projet sera moins ambitieux qu'on le pensait au début, il y a toujours une solution.
J'adore le fait que tu prennes cette métaphore des moments en apesanteur extraordinaire et des catastrophes où on se dit c'est la folie et cette idée de vraiment avoir des problèmes après problèmes et de vouloir avoir cette vulnérabilité, cette capacité, on va dire, de l'intelligence émotionnelle, en quelque sorte, à être capable de vraiment faire cette montagne russe, comme tu disais. Et donc, tu disais que, effectivement, pour toi, l'environnement familial et autour de soi, ses proches qui peuvent nous aider et ses coachs aussi dont tu parlais. Est-ce que tu peux nous dire un peu pour chacun de ces deux environnements, comment ça a été, c'est quoi les caractéristiques qu'il faudrait de cet environnement perso et de ses coachs aussi, ou peut-être des histoires particulières de toi, comment ça t'a aidé concrètement?
Complètement. Alors, moi, c'est ma compagne actuelle qui est vraiment pas dans l'écosystème start-up, innovation. Elle travaille dans un grand groupe et du coup, dans son environnement professionnel est assez différent de celui des start-up, de l'innovation, de l'entrepreneuriat au sens large ou même du développement de projet. Et du coup, ça apporte une certaine vision différente que celle qu'on peut avoir souvent les mentors ou les pères qu'on peut aller chercher un père ailleurs. Ce sont des personnes qui sont dans l'écosystème, donc ils n'ont pas cette vision externe écosystémique en fait. Et donc ça donne des très bons conseils, hein, mais d'avoir une personne au quotidien qui peut juger, qui vous connaît très bien, vos caractéristiques, votre caractère, votre manière de réagir, votre manière de quand vous êtes fatigué, pas fatigué, vos défauts qui se mettent en exergue à certains moments ou vos qualités qui reprennent le dessus, et ben ça donne un vrai une vraie respiration à certains moments, ou se remettre les pieds sur terre à d'autres aussi. Quand il y a des grandes réussites, c'est très bien. Faut en profiter. Il faut se dire aussi, voilà, relativiser aussi dans ce sens-là, en disant voilà, ce sera pas tous les jours comme ça, donc on en profite et puis on se remet un peu le pied à l'étrier, un peu comme une équipe de rugby ou de foot qui gagne le championnat. Bah, on fait ça pendant un mois et après on se remet au travail pour la saison suivante. Donc en fait, le binôme au quotidien, c'est vraiment mon équilibre. Évidemment avec mes enfants, hein, puisque j'ai trois petites filles à la maison, donc qui sont en l'école primaire, donc c'est beaucoup d'énergie, de passion, leur faire découvrir un maximum de choses parce qu'on a la chance de pouvoir le faire et parce que on a des activités, un secteur actif en France, puis une curiosité qu'on a qui est assez grande. Et du coup, plus je fais d'activités, plus moi aussi j'en suis content et plus ça en fait des êtres curieux. Et du coup, ça contrebalance avec le quotidien professionnel qui est processé. Ça met quelque chose de beaucoup plus d'affect et d'intuition que de choses prévisibles. Et du coup, ça, c'est hyper agréable, même si c'est des challenges aussi dans la famille. Et puis, professionnellement, tu en parlais, mais le côté mentorat et coaching est essentiel, je pense, pour tout dirigeant, Même si vous êtes freelance à votre compte, il y a des possibilités d'avoir des accompagnements, des regards extérieurs une fois par an ou deux fois par an, notamment sur des sujets, moi, qui m'ont fait énormément grandir, où je pensais être très fort. C'est la productivité, la gestion du temps, de l'agenda, et où en fait, je me trompais énormément. Trois dernières années, alors que c'est ma troisième et quatrième entreprise, j'ai appris énormément de choses sur moi-même et sur le temps, notamment grâce au Covid aussi, hein, qui a été une période où un peu on a été suspendu à des réunions à distance, de la communication parfois peut-être un peu plus hachée un challenge de faire avancer des projets en étant chacun chez soi. Et du coup, ça a mis une valeur du temps beaucoup plus forte que celles qu'on pouvait avoir avant, que je pouvais avoir avant. Donc, tout ça pour dire les vertus du coaching sont excessivement démontrables, même pour des profils expérimentés ou des profils où c'est votre premier projet, même si vous n'êtes que deux personnes, même si vous n'avez pas de salariés. Être coaché sur la manière dont vous devez travailler au mieux votre projet et faire en sorte de tirer le meilleur de vous-même pour votre projet, c'est quelque chose d'essentiel pour moi et j'en fais très régulièrement.
Oh, super, ça nous réconforte beaucoup d'entendre ça, parce qu'effectivement, le coaching et le mentorat est très essentiel, c'est notre croyance à Synapse. Et quand tu dis que même après plusieurs boîtes, après avoir vendu ta boîte, t'as encore à t'améliorer sur ta productivité, sur ta gestion du temps, sur l'agenda, c'est bien qu'on a tous, que c'est un apprentissage continu tout au long de la vie, que ça s'arrête jamais, même si on a un certain niveau de succès. Et quand tu parlais de l'équilibre familial, conjugal, nous, chez Synapse, on a un modèle avec la vie systémique sur les 12 piliers où être bon dans un pilier, gagner beaucoup d'argent ou avoir une belle carrière, c'est facile hein, si on sacrifie le reste pour ça. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on a une vie abondante dans tous les domaines. Et c'est ça la vraie plénitude qu'on recherche tous à différents niveaux pour chacun.
Bien sûr, complètement d'accord.
Qu'est-ce que tu dirais, toi, que ça a été peut-être des croyances limitantes que tu avais que tu n'as plus aujourd'hui, que, on va dire des challenges perso qui peut-être dans la gestion d'équipe ou dans différents domaines que tu as dû affronter, on va dire, et qui t'ont empêché d'avancer, qu'aujourd'hui tu as réussi à casser, on va dire, ces croyances limitantes?
C'est intéressant. La première croyance limitante a été pour moi, quand j'ai réentrepris et redéveloppé des projets, a été de se dire ça va être plus facile. Parce que je vais être serial entrepreneur, donc ou entrepreneur récidiviste si on le dit en français. Et en fait, je me suis rendu compte que ça facilite beaucoup de choses, notamment la prise de choix rapide. Il y a des réflexes qu'on a qu'on n'aurait pas eu dans les premiers projets sur des recrutements, sur certaines physionomies du projet entrepreneurial qui correspondent à tout projet entrepreneurial, administratif, financier, RH, etc. Mais en fait, on peut entreprendre 10 ou 20 entreprises. La 21e peut être tout aussi problématique ou challenging, notamment grâce au, enfin, à cause plutôt du point central des projets entrepreneuriaux, c'est le product market fit, donc l'adaptation du projet à un marché, à un instant T. Et ça, ça ne se vérifie que si on le fait, le projet. Donc, on peut avoir autant de croyances qu'on veut, autant de connaissances d'un secteur qu'on veut, si on ne lance pas le projet avec son ADN, sa physionomie, son mix d'idées qui fait évoluer le projet, on ne peut jamais savoir si ça va marcher. C'est pour ça d'ailleurs qu'un de mes leitmotifs pour entrepreneurs, qui est un peu celui de pas mal de personnes qui encouragent l'entrepreneuriat, c'est de se dire qu'il faut se lancer. Parce qu'avant, ça ne peut que être des supputations, des réflexions, même si vous êtes plutôt confiant. On ne peut jamais savoir tant qu'on ne se lance pas. Donc, une des barrières que j'ai eu un peu à réaliser, c'était de se dire, en fait, c'est tout aussi galère de réentreprendre que d'entreprendre pour la première fois. Et notamment sur les croyances qu'on avait de certains projets ou de certaines idées, où on s'est rendu compte qu'en fait, on avait faux. Et du coup, ça a été un peu… c'est pas si simple qu'on le pensait, quoi.
C'est intéressant parce que c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire d'un côté, effectivement, si on a fait 20 boîtes, on est serial entrepreneur, les choix sont plus rapides, on a déjà du bagage, on choisit les gens, on voit le business model, on a peut-être plus de courage, de confiance, de certitude, on développe certaines qualités humaines aussi. Mais à côté, il y a l'élément externe, l'élément temporel, l'élément du product market fit et qui on pourra jamais prévoir, même si on est le meilleur consultant du monde, le meilleur entrepreneur, si ça va accrocher ou pas. Et c'est qu'en le faisant qu'on saura. Donc, ça peut être aussi galère que les autres fois. C'est un peu ça, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, à l'importance de la routine du matin? On parle beaucoup de ça, du développement personnel. C'est comment, toi, ta routine du matin? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu fais, toi, pour garder, on va dire, le peak state, la performance? Et en tant qu'entrepreneur, tu peux pas, si tu laisses les moments difficiles t'emporter, c'est pas bon pour le business. Donc, comment tu fais, toi?
Écoute, je vais peut-être en décevoir certains, mais je suis pas dans le miracle morning à me lever à 5 heures. Faire une heure de yoga, une heure de sport, une heure de lecture, une heure de méditation, une heure de développement personnel et après je vais au travail. mais j'ai quand même un côté routinier, notamment sur le démarrage de la journée. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil. Donc, tu vois, je me lève assez autour de 7 heures et la routine, elle commence d'abord par la famille avec les enfants. Le départ à l'école, on se prépare, on échange, on discute. Le chemin pour l'école, moi, j'adore ce moment parce que c'est une première journée avant la journée professionnelle. Et dans ma routine, j'ai pris aussi le principe, moi, de couper absolument toutes mes notifications professionnelles à la maison. Donc, à partir de 20h, quoi, grosso modo, ou 19h. Tout dépend des jours. Et quand je suis dans la famille, j'ai aucune notification. Je travaille jamais le week-end, par exemple. Sauf très rares cas. Du coup, ça permet d'avoir vraiment cet équilibre. Et du coup, le matin, pareil, hein, je sais que je n'ai pas à regarder à droite mon téléphone et à gauche mes enfants. Je commence ma journée quand elles sont à l'école et qu'on a passé ce petit moment du matin ensemble. Et puis après, un démarrage à 8h30 qui est agréable. C'est un peu plus tôt, moyenne, tu sais. Donc en fait, l'avantage d'avoir des enfants, c'est qu'on les dépose tôt à l'école et qu'on commence une journée un peu plus tôt. Et après, c'est de la gestion de l'agenda. En fait, tous les jours, ma dernière action de la journée, c'est de regarder la physionomie de mes 2 ou 3 prochains jours prochains, de réajuster s'il y a trop de choses, de reprioriser s'il y a de la repriorisation à faire, d'anticiper s'il y a des trajets ou autres ou différentes choses à prendre. Et ça permet le matin d'avoir l'esprit tranquille en se levant en se disant je sais quelle va être ma journée en fait. Donc voilà, après je fais beaucoup de sport moi, donc j'essaye de le faire plutôt le matin. Donc ça peut être dans la tranche 8h30, 9h30 par exemple, après d'avoir déposé les enfants. Et après la journée démarre et on est parti dans le cycle. Les meetings internes, externes, le travail personnel, en gros, qui sont les trois principales missions de chaque jour.
Wow. C'est intéressant parce que ça rejoint vraiment la vision systémique de, voilà, de se réveiller 7 heures, de passer au moins une heure en famille avec les enfants, le chemin de l'école, se ressourcer pour ensuite pouvoir commencer plus tôt. Et donc, en commençant à 8h30, bah, il y a le temps pour le sport, pour faire bouger son corps, pour transpirer, pour préparer. On sait que ça aide vraiment les capacités intellectuelles. Et après, donc, d'avoir cette journée qui peut être une journée de 10 heures à peu près, de 9 à 19, on va dire, en moyenne, de travail focalisé. Et terminer systématiquement par l'évaluation, l'examen de conscience, où on regarde un peu où on va. Et du coup, en faisant ça tous les jours, on monitore, quoi. Donc, si jamais ça sort un peu du planning ou ça sort du cadre des besoins de l'entreprise, on réajuste. C'est ça qui protège, en fait, de passer trop longtemps à aller dans la mauvaise direction, quoi. Regarder tous les jours.
Ouais, exactement.
Ah, super.
Exactement.
Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont inspiré, aidé le plus dans ton cheminement?
Oui, il y en a plusieurs. Le dernier en date s'appelle Crossing the Chasm, donc Crossing de Chasm. Je ne sais pas comment on le dit en français, mais c'est un peu passer le trou, le gap. En fait, qui est un livre qui explique comment on peut passer à l'échelle quand on a un projet qui vit bien, qui se développe bien, comment on peut aller encore plus loin grâce à cette base du projet. Et notamment, c'est ce qu'on appelle la scalabilité ou la réplicabilité d'un business model dans d'autres secteurs ou dans d'autres niches que celles que vous adressez. Et c'est un livre qui fait sens dans ce monde où on a beaucoup de startups ou d'innovations qui se développent très vite grâce aux millions d'euros levés. Là, c'est plutôt un livre qui va donner les clés pour tout type de projet, de se dire bah, si je veux continuer à être dans d'autres secteurs, par quoi je commence? Il y a la métaphore des quilles dans le bowling. Quand vous voulez faire tomber les quilles, vous vous aidez d'une quille pour faire tomber les autres, et notamment la plus proche. Vous n'allez pas d'abord chercher la quille qui est tout au fond. Et c'est une métaphore qui est utilisée dans le livre pour dire bah, voilà, la niche à attaquer ou à développer plus juste après pour le développement de votre projet. C'est celle qui est la plus naturelle par rapport à votre business model, qui est la plus simple à adresser. N'allez pas forcément vers la plus grosse ou la plus importante niche à développer. Et donc, prenez les choses dans l'ordre. J'ai beaucoup aimé ce livre avec les retours d'expérience, les exemples. J'ai vraiment beaucoup aimé. Après, quand j'ai démarré, j'ai adoré deux livres très simples à lire et vraiment indispensables quand on est entrepreneur pour moi. C'est L'art de se lancer de Guy Kawasaki, qui est un serial entrepreneur et investisseur américain et qui vulgarise énormément de choses sur la création de projets, qui la rend beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Et c'est ça vraiment qui me motivait beaucoup. Et un autre livre qui s'appelle « From Zero to One », de 0 à 1, de Peter Thiel, qui va aussi donner un peu le là de toutes les briques d'un projet dans ses premiers développements. Et puis, dernier livre, un autre livre américain, après j'en aurai plein d'autres, mais c'est The Hard Things About Hard Things. C'est vraiment des retours d'expérience sur le métier, cette fois de chef d'entreprise, d'être une entrepreneur ou un entrepreneur, le quotidien et les problèmes. Souvent, on a l'impression qu'on a tous des problèmes, et ce qui rassure dans ce livre, il le dit plusieurs fois, c'est que toutes les entreprises du monde entier, toutes les plus grandes licornes, ont toutes connu des très gros problèmes d'association, de répartition, d'équilibre, de mauvaises nouvelles, de possibles clés sous la porte, etc. Et le talent a été comment les entrepreneurs ont pu déjouer ces problèmes. Et il fait vraiment beaucoup de bien, ce livre. Donc ça, ce serait vraiment mon conseil.
Wow, super. Plein de conseils pour nos auditeurs. Et quand tu parles de ces associés, de ces difficultés, je me rappelle que tu as dit au début que dans le monde associatif, quand tu travailles avec des gens, gestion d'équipe, c'est un peu ce qui t'a aussi éveillé à l'entrepreneuriat. Et que donc tu as eu des difficultés avec des départs d'associés. Aujourd'hui, tu as encore deux associés. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le choix de ces associés, les expériences que tu as vécues là-dedans et que tu vis aujourd'hui?
Oui, alors c'est beaucoup de questions. On pose beaucoup de questions sur ce sujet. C'est à la fois, il y a des standards qui peuvent être développés. À la fois, c'est quand même beaucoup ce qu'on appelle de l'intuitu personnel. Donc, ça dépend vraiment des équilibres de chacun, des personnalités. De ce que je vois quand même, parce que je vois beaucoup d'entreprises tous les ans, etc., je trouve que le meilleur format est un format où on développe une entreprise avec des associés qui pourraient être des très bons amis, mais qui ne le sont pas. C'est un peu, c'est pas métaphorique, mais c'est un peu un credo que je me dis en me disant, voilà, c'est des gens avec qui on a une proximité très forte parce qu'on passe le plus de temps de notre vie avec ces personnes-là hein, durant les années de développement du projet, hein, plus qu'avec nos proches, qu'avec d'autres personnes de l'entreprise. On a des relations intimes à la fois sur l'argent, le temps qu'on met dans le projet, l'affect et puis l'ambition. Et on partage cet alignement de valeurs qu'il faut avoir dès le démarrage du projet. Et du coup, moi, j'aime bien cette métaphore de dire, ah bah tiens, mes associés actuels auraient pu être des mes meilleurs amis, mais ça ne le sont pas. On a des valeurs communes et un ADN commun, ce qui fait qu'on développe très bien le projet tout en étant très professionnel entre nous. Très bonne réponse. Après, on s'entend aussi très, très bien et on passe d'excellents moments ensemble. Mais on est vraiment guidé au quotidien par notre projet, son développement, la croissance d'Eldorado, par exemple. Et puis, justement, historiquement, j'ai créé des projets avec des amis ou des personnes qui ont mis de l'argent dans des projets qui étaient mes amis. Et le problème principal, c'est que l'argent corrompt un peu les liens sociaux. Quel que soit le problème lié à l'argent, c'est soit on en gagne beaucoup, soit on ne gagne pas et le projet est... ces deux un peu versions de l'accordéon, bah ça peut engendrer des tensions, et notamment parce que forcément, professionnellement, on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes attentes. Du coup, il faut, dans chaque projet, trouver cet équilibre au départ et puis garder cet équilibre tout au long de la vie du projet. Je sais qu'avec mes associés, nous, on fait beaucoup d'exercices à trois pour réfléchir à ça. Tous les trois mois, on se repose et on écrit des bouts de papier chacun de notre côté en répondant à des questions sur le projet. C'est quoi pour toi les trois prochaines étapes? C'est quoi pour toi les valeurs actuelles? C'est quoi pour toi les trois erreurs qu'on a fait par le passé? Et après, on compare nos réponses, on échange, on s'aligne. On se dit des choses vraiment perso aussi sur qu'est-ce qu'on veut faire chacun grâce à ce projet-là. Il n'y a pas de non-dit, pas de face cachée, ce qui permet d'avoir vraiment un très bon équilibre. Et pourvu que ça dure. Donc, c'est un peu ça que je donnerais. Après, il y a des entreprises qui marche très bien en famille ou avec des amis. Donc, c'est pour ça que je te disais, ça dépend aussi des personnalités et de l'équilibre des personnes de chaque typologie de projet.
Ah, c'est intéressant que tu parles de s'arrêter tous les trois mois et d'avoir ces team days ou ces moments de réflexion où on va en profondeur sur ses attentes perso et on fait un processus structuré où chacun écrit, comme tu disais, ses valeurs, ses erreurs, les prochaines étapes. Et c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, de tous les jours regarder ton agenda et voir où est-ce que tu en es ton planning, de aussi avoir cette pulsation où on s'arrête pour réfléchir sur l'action et planifier. Et c'est intéressant que tu parles du fait qu'il faut des valeurs communes, il faut une proximité, il faut qu'on aime être ensemble et qu'on ait un ADN commun. Donc, il y a ce besoin d'amitié, entre guillemets. Mais d'un autre côté, si c'est les amis qu'on voit tous les jours en dehors du projet qui sont là, ça peut aussi créer un impact négatif, on va dire, parce que mélanger tout, ça peut être problématique dans un certain cas. C'est un peu ça que tu disais?
Ouais, exactement. Exactement. Ça peut engendrer une tension. L'alignement de valeurs et l'ADN commun qu'il faut au démarrage du projet, encore une fois, je le répète, mais il faut le vérifier tout au long de la vie du projet. Certaines personnes ont des rythmes de vie différents ou des origines de bonheur différentes ou des appréciations d'événements différents. Donc, il faut toujours vraiment faire attention à cet équilibre qui est le socle, l'association, c'est le socle de développement de l'entreprise. Après, il peut y avoir des départs. Mieux vaut qu'il soit bon, positif, anticipé et organisé qu'avec des tensions qui gangrènent l'entreprise sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Quoi.
Et c'est quoi ta vision de futur aujourd'hui, Adrien? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi qui te fait te lever aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux atteindre dans les prochaines années?
C'est une bonne question. Alors, moi, j'aimerais garder encore cet équilibre et cet épanouissement et réussir à faire en sorte qu'Eldorado, en particulier ce projet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, puisse aider des dizaines et des centaines de milliers d'entrepreneurs ces prochaines années sur l'angle du financement, de la création de projets, du développement, de devenir vraiment un acteur de référence même pour l'entrepreneuriat au sens large. C'est un développement pour moi. Je ne vais pas dire revendre l'entreprise ou avoir des centaines de salariés, etc. Non, moi, vraiment, c'est faire du sens pour les personnes qui utilisent la plateforme, les services, les contenus qu'on a, que ça soit changeant pour eux à un moment T de leur projet. Parce que vraiment, le développement de projet fait vraiment un parcours semé d'embûches. Et si on peut en enlever grâce à notre projet, ça sera vraiment une satisfaction personnelle. Et pour ouvrir à plus large qu'Eldorado, ce serait de, soit à travers Eldorado ou ce prochain projet, ce serait de, d'être dans un développement d'un projet qui fait plus de impact aussi par rapport à l'avenir de la planète, des personnes, de l'équilibre un peu social qu'il doit y avoir et des inégalités. Et donc, j'aimerais bien, et puis on se retrouvera dans 5 ou 10 ans, mettre ma passion d'entrepreneur sur des projets qui changent un peu le quotidien ou la physionomie et l'impact qu'on peut avoir sur certaines choses dans la vie, et pas que sur être sur une société commerciale. Mais ça, l'avenir me le dira. D'abord, il faut passer par plusieurs étapes.
Wow, très inspirant. Cet épanouissement va continuer, c'est sûr, avec ces centaines de milliers de gens impactés et au-delà du business d'Eldorado, de vraiment faire la différence dans le quotidien des gens. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot peut-être sur l'écosystème français, donc ce paradis dont tu parlais au début? Les gens vont acheter ton livre, tu ne vas pas tout révéler, mais peut-être quelques éléments généraux sur l'écosystème français et pourquoi est-ce que c'est un vrai paradis?
Alors en fait, oui, complètement, avec plaisir. En fait, c'est un paradis dans le sens où il y a énormément de typologies et de sources de financement variées et qu'elles sont toutes en pleine croissance. Donc, que ce soit les banques, que ce soit la BPI ou les organismes de financement non dilutifs, donc des financements publics, ou les investisseurs, il y en a de plus en plus de business angels, de fonds d'investissement, donc et divers et variés, hein, dans des secteurs généralistes, à divers stades de développement d'entrepreneurs et les projets. Donc, en fait, on est sur un écosystème qui vit un peu ces 10 glorieuses, où il y a à la fois aussi des excellents porteurs de projets, des personnes qui entreprennent. On n'est plus dans la première vague de l'entrepreneuriat, donc on a atteint une bonne maturité qui peut permettre de faire d'autres étapes, de création d'emplois, de développement de projets innovants et impactants. Du coup, ce qu'on dit dans le livre principalement, c'est que ces financements, ils sont divers et variés et très nombreux. Donc, il faut s'organiser pour aller les chercher. Et en particulier, on donne des conseils généraux pour les entrepreneurs. Le premier, c'est d'anticiper un maximum. Il faut anticiper le recrutement, il faut anticiper le développement commercial, il faut anticiper la sortie d'un projet, mais il faut aussi anticiper le financement, tout simplement les levées de fonds. Il ne faut pas se poser la question de trouver des fonds quand il ne nous reste plus que quelques mois de trésorerie. C'est très important. L'anticipation, il faut avoir une bonne connaissance financière de base, c'est important, une bonne connaissance des acteurs de financement. Sans avoir fait de master de finance, il faut se renseigner un maximum. Ça permet de vraiment actionner les bons financements au bon moment. Ça, c'est généralement un conseil qu'on donne très souvent. Et puis aussi, quelque chose qui est souvent oublié par les entrepreneurs et qui est un bon conseil, c'est de ne pas déléguer la stratégie de financement. Parce que la stratégie de financement, en fait, elle est liée à la stratégie de l'entreprise. Si vous venez unir un business local, vous développez à l'international, être sur de l'innovation ou non, ces différentes facettes d'un projet de stratégie d'entreprise appartiennent au ou à la ou au CEO et ne peuvent pas être déléguées à un cabinet de conseil, surtout dans le démarrage. Il n'y a personne mieux que l'entrepreneur lui-même qui peut bien pitcher un projet et bien le développer. Donc, il faudra toujours garder ça en tête dans le cadre du développement du projet. Ensuite, advienne que pourra, et j'espère que ça va aider un maximum, notamment à travers le livre, de personnes à rendre intelligibles certains axes du financement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et ça peut paraître être une jungle, mais on peut s'en sortir.
C'est super, une très belle métaphore, les 10 glorieuses. Et quand on voit toutes les sources, que ce soit la BPI, les non-dilutifs, les investisseurs, les banques, clairement, il y a plusieurs options, il y en a plein et on peut s'en bénéficier. Et vraiment, c'est le CEO qui doit prendre cette stratégie, ce financement comme carrément l'essence du business, comme tu dis. Tu disais donc qu'il y a des excellents porteurs, il y a des gens qui ont vraiment de l'expérience dans l'écosystème français. Maintenant, il y a des gens, nous on en a pas mal dans notre audience, qui ont vraiment envie, mais qui sont dans des situations un peu plus vulnérables, on va dire, et qui, donc, c'est leur première expérience, ils sont en train de switcher à l'entrepreneuriat, et parfois, ils sont dans des situations assez précaires où vraiment, ils n'ont pas du tout de réserve. Et donc, tu disais justement, on ne peut pas faire un plan de financement si on n'a que quelques mois de liquidité. ces personnes qui, à titre personnel, n'ont pas vraiment d'argent de côté, n'ont pas la possibilité de toucher le chômage, quelque chose comme ça, et qui ont envie de se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais à eux qui peuvent pas trop anticiper, en fait, en quelque sorte, parce que même s'ils réduisent leur niveau de vie au maximum et ils sacrifient, ils sont un peu dans des limitations, on va dire. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là?
Alors qu'il y a toujours, toujours des solutions de moment, même pour les entrepreneurs au démarrage. Donc déjà, il y a Pôle emploi et le chômage pour ceux qui peuvent en bénéficier, qui est quasiment le premier business angel français. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le soutien public à l'entrepreneuriat permet que quand on a environ 15 000 euros de fonds propres, donc de capital social de démarrage, de compte courant d'associés au démarrage dans l'entreprise, on peut faire ce qu'on appelle un effet de levier sur ces 15 000 euros et aller chercher des premières subventions ou des prêts d'honneur. Donc, les prêts d'honneur sont des organismes qui donnent des prêts aux porteurs de projets. Si vous n'avez pas de proches ou de soutien bancaire ou d'argent, un pécule de côté ou un peu d'argent de côté à mettre au capital, vous pouvez aller chercher un prêt d'honneur qui est généralement entre 20 et 40 000 euros par fondatrice ou fondateur du projet. Et du coup, les mettre en compte courant d'associés, c'est permettre ensuite d'aller déposer des dossiers de subvention ou de prêts ou de soutien public à travers la France. Et on vous aide les deux premières années du projet, qui est l'année où il faut aller chercher. Alors, on parle beaucoup de financement, mais le financement principal d'une entreprise, c'est les clients. Donc, tout ce que vous devez faire ou aller chercher comme financement, ce sont des moyens et non une fin. Et il faut que ça vous serve à aller chercher d'autres clients. Du coup, une fois que vous avez ces premiers financements de démarrage, être vraiment dédié tout votre temps, votre organisation, la répartition et les différents rôles dans l'entreprise, aller chercher. Déjà, ce sera se mettre en face de votre problématique que vous voulez résoudre, hein, de ne pas vivre sur une chimère, mais se dire, est-ce que ça marche? Est-ce que les clients achètent? À quel prix? Est-ce qu'on peut faire ajouter des choses, enlever des choses, etc. Et surtout faire du chiffre d'affaires, qui est le nerf de la guerre au démarrage de l'entreprise. Une fois que ça marche, on peut lever des fonds auprès d'investisseurs privés, mais aussi on peut réfléchir à tout simplement avoir des outils plus importants une fois que l'entreprise est en forte croissance. Mais en tout cas, au démarrage, il y a cette utilisation et maximisation des fonds propres qui est possible grâce au financement public et au financement bancaire, mais aussi aux prêts d'honneur de démarrage pour entrepreneurs.
Wow. C'est super, parce que ce que j'entends, c'est que en fait, le commercial, c'est la priorité dès le début, et aller chercher des clients, c'est le conseil général qu'il faut commencer par ça. Et en même temps, avec 15 000 euros seulement, on peut avoir un prêt d'honneur qui peut aussi donner un effet de levier avec les banques. Et donc, du coup, on peut réussir à avoir quand même un capital minimum assez facilement, on va dire, dans cet écosystème pour, en parallèle d'aller chercher ses clients, pouvoir tenir un petit moment jusqu'à valider ce qu'on fait, quoi. C'est un peu ça le message.
Ouais, complètement. Complètement, il ne faut pas être résigné, il y a toujours des différents types de financement. Il y a même de la réinsertion, du financement pour les demandeurs d'emploi. Il y a des techniques de financement qui existent, d'utiliser les bons outils pour aller les trouver et d'anticiper, de les chercher, pas quand il vous reste qu'un mois de trésorerie.
Bien sûr. Et pour finir, est-ce qu'il y a une question à laquelle tu aurais bien aimé répondre que je ne t'ai pas posée, que tu voudrais répondre maintenant?
Ça, c'est une bonne question. On peut parler peut-être de comment gagner de l'argent quand on développe un projet grâce à ses clients.
Ouais.
Quel est le business model, quoi. Comment trouver un business model, parce que c'est souvent la réflexion. Comment on a trouvé nous, enfin, si j'étais à ta place, je dirais, et vous, alors avec Eldorado, dans le cadre de tes projets, comment tu as pu trouver un business model? En fait, dans mes premiers projets, j'allais là où le vent me guidait, le vent du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que je testais beaucoup de choses. Et puis, on était jeunes, on est encore jeunes, hein, mais on était vraiment sortis d'école et on avait vraiment énergie. Et donc, j'allais un petit peu là où le vent va tourner. Maintenant, j'ai plus une intuition business un peu plus fine. Mais toujours est-il que faire payer des clients, ça reste le challenge. Et le conseil que je donnerais dans le cadre de cette réponse du business model, comment trouver le bon prix, les bons clients, c'est vraiment de garder une très grande agilité. Ça veut dire accepter que quelque chose ne marche pas ou ne va pas marcher et pas persister de façon trop longue, trop bête, hein, parce que ça peut vraiment faire perdre du temps. quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas marcher ou qui marche, c'est-à-dire que vous faites du chiffre d'affaires, mais que ce n'est pas du bon chiffre d'affaires, parce qu'il y a trop de clients qui se désabonnent, parce que les clients sont moyennement contents, parce que le prix est trop bas ou trop élevé et que vous ne pouvez plus changer, il faut vraiment être très agile. Ça veut dire pouvoir changer en une semaine le business model de l'entreprise sans que ça change tout. Soit ajouter des briques, soit en enlever, soit de façon changer même le modèle. Est-ce que c'est de l'abonnement? Est-ce que c'est du SaaS? Est-ce que c'est du prix par achat de projet, du prix par réponse à des appels d'offres, etc. Il faut vraiment réfléchir à comment on peut faire évoluer et dynamiser le projet et ne jamais se reposer sur ses lauriers parce que les projets se font par étapes jusqu'à atteindre votre équilibre. Hein, lequel est-il votre équilibre? Ça dépend de vous. Hein. Est-ce que c'est de bien gagner sa vie, d'être heureux, d'avoir une entreprise stable et des gens heureux? C'est à peu près le mien, par exemple. Ou est-ce que c'est d'être très ambitieux, recruter 500 personnes dans les 5 prochaines années? Et là, c'est une autre dynamique de croissance qu'il faut développer. Mais en tout cas, voilà, sur le business model, c'est des questions moi, que je me suis beaucoup posées, qui m'ont omnubilé vraiment sur le fait de comment est-ce que les clients sont contents. Donc, j'ai beaucoup appelé les premiers clients de chacune de mes offres, leur dire pourquoi vous avez payé tant, vous êtes content, est-ce que vous payez pour faire ci, est-ce que vous auriez ajouté à l'abonnement telle nouvelle fonctionnalité ou autre. Et ça m'a beaucoup aidé à assumer le business model ensuite et à garder cette question comme étant centrale, la satisfaction des clients et la pérennité du business model.
Wow. Bah, c'est super parce que vraiment l'agilité, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça qui nous différencie des grands mammouths, des grandes structures et parfois on est trop amoureux de notre produit, on est trop attaché à une stratégie commerciale et du coup on perd ça quoi, qui est notre essence. Donc c'est bien que tu le rappelles. Et peut-être une dernière question pour fermer. Toi, au niveau perso, nous vraiment l'intersection du développement personnel et de l'entrepreneuriat, c'est ce qui nous passionne chez Synapse. Toi, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui que c'est ton prochain objectif de développement personnel ou peut-être l'obstacle que tu as en tant que CEO d'Eldorado aujourd'hui que tu vas devoir travailler sur les prochaines années pour devenir la personne que tu as besoin de devenir et atteindre cette mission dont tu nous as parlé?
Je vais dire que la principale, c'est pas de retomber dans les travers de la mauvaise gestion du temps. Donc, de garder des garde-fous qui sont très actifs, très présents dans la gestion du temps, de l'agenda. Parce que je me connais aussi, je suis passionné des idées, des projets, j'ai envie de tout faire. Et faut savoir faire le deuil de certaines idées. C'est quelque chose que, quand je suis en coaching, j'arrive bien à faire. Mais quand le coaching était il y a 2 ou 3 mois, c'est plus difficile de dire non. Donc, savoir dire non, savoir faire le deuil, ça reste un des grands challenges que j'aurai ces prochaines années pour séquencer au mieux les projets. Ça permet d'être beaucoup plus stable et serein dans le développement de ses projets.
Comme dit le CEO, l'ancien CEO de Google et chairman de Alphabet, Eric Schmidt, il dit on a tous besoin d'un coach parce que vraiment se regarder de manière objective, c'est quelque chose qu'on n'est pas bon. Tu disais tu te regardes tous les jours à la fin de la journée, mais même comme ça, si tu n'as pas un coach pour t'aider à dire non et à focaliser, au final, tu ne donnes pas le meilleur toi-même. Donc ça coïncide bien tout ça. Merci Adrien pour ta présence aujourd'hui. Merci pour ce podcast.
Merci à toi. Merci à vous pour votre écoute. Et puis, très bonne journée. Bon développement de projet. J'espère que vous aurez toutes et tous plein de super projets à mettre en avant ces prochains mois et ces prochaines années.